d'actu avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Que devient la culture ? Le 11 octobre, le mouvement associatif se mobilisait pour alerter d'une crise sans précédent du monde associatif et en cause notamment les coupes budgétaires. Et le domaine de la culture notamment est particulièrement touché, et pas seulement d'ailleurs au niveau associatif. Selon l'Observatoire des politiques culturelles, près de 50% des collectivités et intercommunalités ont diminué leur budget culturel entre 2024 et 2025. Cela concerne plus de 6 départements et régions sur 10. Les Pays de la Loire sont un des meilleurs exemples, puisque le budget culture de la région a presque baissé de moitié entre 2024 et 2025. Associations, compagnies, structures culturelles sont donc impactées dans leur fonctionnement et leurs investissements. Sommes-nous dans un moment de crise majeure et inédit du monde de la culture, ou bien ces coupes budgétaires sont-elles dans la continuité d'une tendance qui dure déjà ? Comment le vivent concrètement les acteurs du monde de la culture ? Quelles problématiques rencontrent-ils ? Et quelles sont les possibilités d'adaptation ou de réponse à ces politiques publiques ? La culture peut-elle encore compter sur un État en crise budgétaire ? Quel rôle doit assumer la culture ? Et quelles sont les conditions pour le rendre possible ? Et finalement, quelles sont les conséquences pour nous, chacun et chacune d'entre nous, citoyens et citoyennes, publics de la culture ?
L'actu en débat avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Pour essayer d'apporter des éléments de réponse à ces questions et comprendre au mieux la situation du monde de la culture aujourd'hui en France, je reçois plusieurs professionnels de la culture en Sarthe et en Pays de la Loire. Laurent Manoury, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinateur régional des cultures du cœur et conseiller au sein du Conseil économique, social et environnemental des Pays de la Loire, qu'on appelle aussi Césaire. Avec nous également Steve Béliard, directeur de la MJC Ronceret, qui nous rejoindra dans quelques minutes, mais aussi Richard Fournier, directeur du Plongeoir, pôle national du cirque au Mans. Bonjour Richard Fournier.
Bonjour.
Et enfin Guylaine Loiseau, directrice de la Compagnie des Ailes du Rire, coprésidente de l'Association de préfiguration des compagnies professionnelles du spectacle vivant en Sarthe. Bonjour.
Bonjour.
Ainsi que Sandrine Rouault, directrice du PAF Théâtre et membre du conseil d'administration de l'Association de préfiguration. Bonjour à vous également.
Bonjour.
Alors commençons donc peut-être par là, par reprendre le mot d'ordre poussé par le mouvement associatif pour sa mobilisation du 11 octobre. Une crise sans précédent, ce terme appliqué au monde associatif, est-ce qu'il convient aussi pour parler plus spécifiquement de la situation de la culture ? Laurent Manoury par exemple. Une crise sans précédent, est-ce que vous pensez que ça correspond à ce que vit la culture aujourd'hui ?
Je pense qu'on peut élargir, on stigmatise un peu le débat, et ça a été orienté comme ça lors des premières annonces l'année dernière autour de la culture, comme si la culture c'était quelque chose d'un petit peu subsidiaire, sur lequel on pouvait retoucher parce qu'il y avait des abus. Ça a été un gros effort de communication de la région de justifier des économies sages par rapport à son budget. Mais en fait, on a une lame de fond beaucoup plus tragique aujourd'hui, qui est vraiment de cibler l'ensemble des secteurs associatifs et tout ce qui fait lien, toute mission d'intérêt général qui sont portées en région. Pour mémoire, l'ensemble des associations ou acteurs associatifs, quels que soient les sujets, le sport, l'environnement, la santé, le social, ça représente 10% des salariés en région Pays de la Loire. C'est 700 000 bénévoles qui s'engagent dans des missions de services publics qui ne sont pas rendus par les collectivités ou par l'État, et qui le font avec des coûts modestes, là où si ça devait être pris en charge par des collectivités ou par des institutions ou par des entreprises, non seulement on aurait un service dégradé, mais en plus qui coûterait beaucoup plus cher. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une vraie idéologie qui tourne le dos à toute cette histoire, parce que c'est beaucoup d'associations, certaines sont centenaires, d'autres se sont fondées dans l'après-guerre. C'est toute une manière de vivre ensemble, de solidarité qui se passe au plus profond des territoires. On dit que c'est le dernier kilomètre pour aller vers les citoyens, où qu'ils soient, et quelle que soit leur origine et leurs conditions. Et aujourd'hui, c'est l'ensemble de ce système qui est vraiment remis en question par une vision très ultra-libérale, en disant l'argent et les impôts, ça doit servir aux entreprises et uniquement aux entreprises. Et donc, tout le monde s'en désintéresse, quels que soient les niveaux. Ça semble faire de plus en plus idéologie. Oui.
Alors, Steve Béliard nous a rejoint sur le plateau. Donc je rappelais que le mouvement associatif s'était mobilisé il y a peu en parlant d'une crise sans précédent du monde associatif, et je demandais si ce terme de crise sans précédent pouvait s'appliquer aussi au monde culturel. Alors Laurent Manoury nous a apporté quelques éléments de réponse. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent ajouter quelque chose sur cette idée de crise sans précédent. Est-ce que c'est une crise qui dure depuis un moment déjà, ou est-ce que cependant aujourd'hui on a un moment charnière peut-être, un point de bascule?
Bonjour, désolé du retard. Un point de bascule sans doute, il y a quand même une prise en compte, une prise en charge de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et cette crise permet à chaque moment de se retrouver ensemble, tous les acteurs culturels associatifs, pour dire ce qui nous rassemble en fait. Et ces crises-là sont aussi des moments donnés où entre les bénévoles, les adhérents et les professionnels, on peut se retrouver. Excusez-moi, je suis super étouffé.
Pas de souci. Vous avez couru pour nous rejoindre.
Bah oui, et dans les remercie. Donc, je viens pas de la MJC en courant quand même. Mais... Non, ce que je voulais dire, c'est que ces temps de crise et ces temps de bascule permettent justement à nous professionnels d'aller vers les bénévoles, d'aller vers les adhérents, d'aller vers les habitants aussi, de leur expliquer ce qui se passe. Parce que les gens sont souvent, on dit, consommateurs. Là, c'est des moments où on peut leur dire, voilà ce qui se passe vraiment. Voilà pourquoi on est en danger. On est tous en danger. Et ça a été un peu, je dirais, le côté positif de cette crise, de renouer un peu avec les habitants.
Alors en 2014 déjà, non, Guylaine Loise, oui. Vous aviez quelque chose à ajouter, allez-y.
Bah, j'avais envie d'ajouter par rapport au spectacle vivant. C'est vrai que l'association là, qu'on vient de créer en avril, l'association de préfiguration pour créer une fédération, on s'est dit, c'est vrai que c'était urgent de se mutualiser. On sent bien que même s'il y avait dans l'idée qu'il fallait à un moment donné qu'on travaille tous ensemble, cet effet de crise nous a aussi amené à nous dire ensemble on va être plus fort pour porter une vraie parole ensemble.
Et en 2014 déjà, hein, le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, émettait un avis pour un renouveau des politiques publiques de la culture. Le CESE invitait l'État à considérer le financement de la vie culturelle non pas comme une dépense, mais comme un investissement sur l'avenir. Donc ça, c'est en 2014. Peut-on s'attendre aujourd'hui de l'État à ce qu'il investisse sur l'avenir, alors que la politique économique du gouvernement est dans l'urgence de limiter les dépenses dans le contexte de la crise budgétaire liée à la dette française? En clair, l'État endetté peut-il se permettre d'investir dans la culture? Quel retour sur investissement la culture peut-elle rendre?
On a des données statistiques sur ça, hein. Il y a énormément d'observatoires ou d'enquêtes qui ont été faites. À minima, on considère que 1 euro investi dans la culture, c'est 7 euros de retour sur investissement. Parce qu'on parle d'économie des coupes, mais on ne voit pas du tout l'impact derrière. Couper et supprimer les emplois, ça va créer de la dette au département pour du RSA, ça va créer du chômage, ça va créer des gens en fragilité. Il y a des coûts qui sont complètement cachés et derrière ça, on ne voit pas du tout l'intérêt et l'impact sur le territoire. Le plus haut, je crois, dans les études, c'est jusqu'à plusieurs centaines de fois, peut-être 300 ou 400 fois le retour sur l'investissement. Il faut savoir que le taux de subvention, il est sur certains secteurs vraiment minimal. Déjà, quand on parle de culture, il y a une économie. La culture, c'est le deuxième secteur économique en France après l'agriculture. Donc il y a l'édition, le disque, il y a tout un ensemble de professionnels qui travaillent sur ce secteur culturel qu'on oublie. Et c'est aussi l'attractivité d'un territoire. Une entreprise veut s'installer dans notre région, ben, elle va regarder si elle a une MJC ou une structure de proximité où ses enfants vont pouvoir être accompagnés, avoir une pratique artistique. Quelles sont les infrastructures et où sortir le soir et qu'est-ce qu'il y a comme proposition culturelle. Tout ça, c'est la vie et l'attractivité, donc qui va avoir aussi des conséquences économiques sur le tourisme, par exemple. Donc aujourd'hui, encore une fois, c'est des données qui sont balancées d'une manière très brute. On parle de 50% du budget culture, on parlait de 73% l'année dernière. En fait, c'est 100% de toute l'aide aux acteurs associatifs qui a été coupée. Ce qui est maintenu, c'est tout ce qui va servir à d'autres formes d'investissement culturel qu'est la communication politique. La région maintient le soutien. Un tiers du budget culture et sport, c'est le fonctionnement de l'abbaye de Fontevraud, qui va servir à certains peut-être habitants de Maine-et-Loire, mais certainement pas à l'ensemble des habitants de la région, qui pourtant, eux, payent pour le budget de la culture. Sauf que le budget de la région, il n'appartient pas à la région. C'est la TVA que tout le monde paye. Cette TVA que tout le monde paye, bah, c'est-à-dire que même les plus pauvres, ils payent cette TVA. Et leur retour, bah, c'est l'investissement dans des politiques publiques qui vont toucher aussi les personnes les plus sensibles et les plus fragiles. Donc cette notion d'égalité des territoires et d'égalité des publics, elle est essentielle quand on distribue cet argent public qui est géré par la région.
Alors on va revenir sur la région, mais juste avant, Richard Fournier, vous vouliez ajouter quelque chose.
Oui, mais en tout cas, sur le... moi, je trouvais ça intéressant en tout cas de revenir sur la région. Vous parliez en tout cas d'une... est-ce qu'on était à un endroit critique ou en tout cas à un pic sur cette crise-là? Il faut savoir que la région a quand même engagé il y a quelques années déjà cette démarche avec, en supprimant notamment les aides et les soutiens à la création aux acteurs et aux compagnies artistiques. Donc, il y avait déjà un désengagement partiel qui laissait porter notamment sur les structures publiques et les structures culturelles publiques, en tout cas le soutien à la création. Donc, il y a un engagement au final sur un mandat politique là qu'on s'aperçoit relativement construit avec un désengagement de plus en plus important et avec justement des coupes très nettes, très brutales aussi. Et comme Laurent le disait, c'est quand même sur des territoires donnés, par exemple pour le plongeoir qui est installé dans le quartier prioritaire des Sabons bord de l'Huisne, une coupe de 100 000 euros, c'est 600 000 euros en moins sur le territoire, 700 000 euros en moins sur le territoire. Ce sont des prestataires avec lesquels on ne va plus travailler, ce sont des jeunes qu'on ne va plus embaucher dans le cadre d'emplois aidés, ce sont également des salariés de l'intermittence en moins, etc. Donc c'est tout un écosystème qui va se dégrader. Cette dégradation, on ne va pas la constater tout de suite, parce qu'au final, les lieux vont absorber comme ça pendant un an ou deux. Mais là, on est en train de préparer en tout cas un horizon 2027 qui s'annonce quand même très très dégradé, très très complexe, d'autant qu'en plus, les autres collectivités ne peuvent plus compenser, en tout cas les désengagements régionaux. Et donc, il y a une sorte de pacte républicain comme ça qui s'affaisse complètement et qui met en danger tout un écosystème au sein des territoires. Le secteur culturel, Laurent le rappelé, pèse énormément dans l'économie nationale. Du coup, le secteur de la culture pèse plus que le secteur automobile.
Alors toujours sur la région, donc on le rappelle, hein, ces coupes budgétaires qui ont frappé le monde associatif et notamment culturel dans le budget 2025 de la région Pays de la Loire. Pendant cet événement, on a beaucoup entendu parler de la loi NOTRe. Quand il y a eu tout ce débat autour des coupes budgétaires. Alors la loi NOTRe, en fait, qu'est-ce qu'elle a permis concrètement? Donc cette loi qui avait permis d'instaurer les compétences partagées, notamment sur la culture, compétences partagées donc entre les différentes collectivités, qu'est-ce qu'elle avait permis? Et est-ce qu'elle n'avait pas ses limites quelque part, puisque manifestement elle ne suffit pas à éviter une crise du secteur culturel?
Je peux apporter un élément, parce que ça c'est quelque chose qui a fait beaucoup débat, notamment au sein du Césaire. On a inventé un nouveau terme maintenant qui était de compétences obligatoires ou pas obligatoires, comme s'il y avait des compétences subsidiaires. Ce n'est pas du tout le sens de la loi NOTRe. La notion de compétences partagées, elle était définie pour qu'un sujet de société ne puisse pas être accaparé à des fins politiques par une des institutions au détriment des autres. Et c'est ça qui donnait le sens du partage. C'est-à-dire qu'on trouvait un équilibre entre la gestion avec les collectivités locales, avec le département, avec la région, avec l'État. Et tout ça, ça faisait un dialogue, ça faisait des politiques culturelles, des investissements qui étaient structurants et ça animait jusqu'au plus proche des collectivités locales. Il faut penser aussi à toutes les collectivités rurales, tout un écosystème. Aujourd'hui, là, on se dit, c'est pas obligatoire, mais la loi NOTRe ne précise nulle part. Il est bien dit que ces compétences sont partagées, mais c'est des compétences obligatoires. Il n'y a pas de... Ça, c'est une invention très récente. Ça a été repris par le Conseil régional d'Île-de-France il y a une semaine ou deux, je crois, pour dire, on ne va plus financer maintenant les publics en situation de handicap, parce que ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on invente finalement à la carte ce qui est obligatoire. Il y a des compétences qui sont exclusives pour les régions, ça c'est entendu. Et ensuite, il y a ces compétences partagées. Mais ces compétences partagées, tant qu'on n'a pas défini de manière globale qui devrait se substituer derrière, elles restent obligatoires pour l'ensemble des opérateurs.
Mais alors concrètement, ce que vous dites, c'est que ces coupes budgétaires, elles sont hors la loi?
D'une certaine manière, en tout cas, il y a des obligations légales, notamment dans vis-à-vis des régions, qui sont la consultation. Il y a des organes consultatifs comme le Césaire, mais même la consultation des acteurs culturels est incluse dans les textes qui fixent l'organisation des régions. Et c'est ça qui a donné d'ailleurs la création des pôles culturels. De l'ancienne conférence des acteurs culturels de la région sont nés 6 pôles culturels qui étaient soutenus de manière paritaire par la DRAC et la région. Aujourd'hui, là, depuis... On avait 22 salariés qui travaillaient sur les 6 filières culturelles en soutien à l'ensemble des acteurs, tant privés, associatifs, entreprises ou collectivités de ces filières. On a 11 salariés sur les 22 qui sont partis aujourd'hui et on ne sait pas encore, puisqu'on a eu que 50% sur la première année de coupe de la région, Là, on entame 2026 avec 100% de coupe. Donc, l'ensemble des filières, non seulement sont touchées au niveau des opérateurs sur le terrain, mais toutes les personnes, toutes les structures qui venaient en soutien pour essayer de trouver des solutions pour animer les réseaux, bah, se font couper les têtes, elles aussi. Et ça, encore une fois, c'est valable pour l'ensemble des secteurs associatifs.
Mais alors, du coup, s'il y a un support légal pour réclamer à nouveau ces subventions qui ont été coupées, est-ce qu'il y a des actions en justice qui ont été mises en œuvre par vos structures, vos compagnies?
Il y a eu quelques actions en justice qui ont été faites, mais sur des manières, par exemple, les radios associatives, parce que se sont même fait couper des subventions sur l'année 2024. Où là, il y avait des chartes, des engagements où on a joué sur les délais, sur la saison, on prend le calendrier scolaire ou annuel, suivant comment ça arrange la région. Donc là, il y a eu un petit rapport de force, mais la région se dit, mais j'investis quand même dans la culture. Regardez ce que je donne à Fontevraud, regardez ce que je donne à ma région virtuose. Donc quelque part, elle investit toujours une partie de son budget, même s'il est largement minime, dans des projets. La question, c'est comment ça soutient la jeunesse dans les politiques culturelles qui vont vers la jeunesse. C'est bien des priorités de la région de travailler sur la jeunesse. Elle a en charge notamment les lycées. Comment ça va soutenir l'emploi? Et il y a des emplois dans le secteur culturel. Tout ça, c'est des politiques régionales, mais qu'on ne veut pas prendre sous le prisme. La culture, on l'isole. On l'a mis dans un petit coin avec la vie associative. Et puis là, même, on a un remaniement maintenant pour notre région. Toutes les commissions, de 8 commissions, on en a fait 4. Donc, ça devient des éléments très, très difficiles à voir et à aborder. Et puis, on découvre aussi, en tant que conseiller, mais comme les élus régionaux, hein, les budgets de la région sont très opaques. Donc, on a des grandes lignes, des grands programmes. Et c'est qu'après qu'on voit vraiment les incidences et toutes les répercussions que ça peut avoir sur les territoires.
Et alors, justement, au niveau des incidences, et là, je me tourne vers les directeurs de compagnies, de structures culturelles, comment ça s'est concrétisé pour vous, ces coupes budgétaires? Est-ce que ça a eu une incidence sur vos activités, sur votre programmation? Je commence peut-être d'abord par Richard Fournier, qui a connu une coupe budgétaire de 100 000 euros, si je ne me trompe pas, sur le Plongeoir.
Oui, tout à fait. Alors, le Plongeoir est un établissement public, c'est un pôle national. Cirque, le seul en région Pays de la Loire. On a tout un travail de filière autour du cirque contemporain, de la formation à la diffusion et de soutien à la création. Donc on a une mission d'intérêt public, on est labellisé par le ministère de la Culture. Et donc là, les coupes qui ont été annoncées en donc, décembre 2024, c'était donc moins 72 000 euros sur le fonctionnement et donc moins 28 000 euros sur le soutien au festival Le Mans fait son cirque. Ces coupes-là ont été annoncées au mois de décembre 2024 et entrées en vigueur dès le mois de janvier 2025. Autant vous dire qu'avec des saisons 24-25 bouclées déjà quasiment un an à l'avance, c'est une très grande complexité de pouvoir amortir et de pouvoir limiter les effets de ces coupes budgétaires. On a, nous, en tout cas, essayé de sauvegarder un maximum d'emplois. Donc il n'y a pas eu de licenciement au sein du Plongeoir. On a également essayé d'épargner le soutien à la création à un maximum, c'est-à-dire de ne pas complètement appliquer ces coûts budgétaires sur les lignes qui étaient subventionnées par la région Pays de la Loire. Et donc on a essayé d'absorber un maximum ces 100 000 euros, de les répartir un maximum sur l'ensemble de nos missions. On a par exemple limité un peu de diffusion, c'était un chapiteau en moins sur le festival, ça a été moins de soutien à la création, ça a été également moins d'emplois là-dessus sur des personnels intermittents ou vacataires. Donc au final, on a là pour l'instant réussi un petit peu à absorber, en tout cas à mettre en place aussi la trésorerie du Plongeoir qui était là et qui était disponible pour pouvoir absorber ces coupes-là. Mais on se retrouve maintenant là avec des systèmes de double levier, c'est-à-dire qu'on a l'ensemble des frais qui augmentent, on a une inflation aussi qui est courante, on a des partenaires publics qui soutiennent énormément pour le Plongeoir, l'État, le département et notamment la ville du Mans. Mais on se retrouve là avec nous des budgets qui sont très limités, avec des hausses de charges et des recettes qui n'augmentent pas. On a une mission de service public. Les places de spectacle au Plongeoir sont entre 5 et 12 euros. Si on voulait faire l'équilibre, il faudrait vendre des places de spectacle entre 60 et 80 euros. Et donc ça, dans une mission de service public située dans un quartier prioritaire avec cette envie de faire découvrir et de se dire que la culture est accessible à tous et à toutes, bah c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. On n'est pas un établissement public justement pour proposer une culture privée et privatisée, mais c'est justement nous, notre mission, de favoriser l'accès en tout cas à toutes et à tous à la culture et notamment au cirque pour nous et de porter un projet sociétal. Donc comment on a fait pour absorber ces coûts budgétaires-là? Eh ben, on a rogné un peu partout sur nos missions. On a mis en place aussi de la trésorerie qu'on pouvait avoir. On sait qu'on va pouvoir tenir comme ça sur cette année 25. On a remanié également notre saison. On a supprimé des spectacles. Enfin voilà, c'est quand même une offre qui diminue dans tous les cas. Le Plongeoir, sur une année, c'est 80 000 personnes qui rencontrent le cirque. Bah, ça va être des personnes en moins qui vont pouvoir le rencontrer. C'est des personnes également de la région qui ne vont plus pouvoir rencontrer le cirque. Le Plongeoir avait une tournée régionale dans le cadre du Festival Le Mans sans cirque. On proposait 4 spectacles de cirque gratuits pour 3 à 4 000 personnes en région Pays de la Loire.
Et cette tournée régionale, elle a été supprimée
sur cette année 2025, parce que nous n'avons plus les moyens de pouvoir la mettre en œuvre. Donc au final, la région sabote aussi sa propre offre culturelle.
Et Guylaine Loiseau et Sandrine Roux, à l'échelle d'une compagnie, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé pour vous? Peut-être, je ne sais pas si les impacts ont été similaires, s'il y a eu moins d'impact, expliquez-nous.
Moi, j'ai parlé au nom de ma compagnie, donc PAF Théâtre. Donc c'est très très différent, on est sur un autre niveau. Moi, c'est plus au niveau du ressenti, parce que en termes de subvention de la région, nous, on n'en a jamais eu. Mais par contre, moi, ce que je ressens, c'est que c'est un peu une continuité de ce qui s'est passé. C'est un truc post-Covid. Déjà, le Covid avait été un coup dur pour nous en termes de la place de la culture dans la société, parce qu'il y a eu un regard sur la culture à cette période qui n'était pas évident. Et puis après, des dates qui ont été annulées, enfin beaucoup de choses qui se sont annulées suite Covid. Et là, en fait, c'est un double coup dur avec ces coûts budgétaires de la région. Même si je ne suis pas directement impactée, j'ai des impacts indirects sur des choses que je devais faire, que je ne vais pas pouvoir faire. Et on se pose la question, enfin moi en tout cas c'est la question que je me pose, où est-ce qu'on met la culture dans notre société? On sent qu'on n'a pas envie que ce soit quelque chose de trop important, on a l'impression que plus le temps passe, moins on a notre place en fait.
Des choses que vous deviez faire mais que vous n'allez pas pouvoir faire, pourquoi? Alors que justement vous n'étiez pas concerné par les coûts.
Les structures avec lesquelles on doit travailler n'ont pas eu les budgets qu'ils devaient avoir en fait, tout simplement. Donc ça se répercute indirectement même sur les plus petites compagnies comme la mienne en fait.
Donc même des compagnies qui de base ne touchaient pas de subventions de la région sont quand même impactées finalement pour ces coûts. Et alors Guylaine Loiseau, est-ce que vous voulez bien nous expliquer comment fonctionne votre modèle économique? On en avait parlé au téléphone.
Donc la compagnie, la compagnie Les Ailes du Rire, on fait des interventions en milieu médical et social, entre autres, mais c'est quand même une part importante de notre activité. Donc l'idée, c'est d'aller apporter des bulles de joie avec des duos de clowns qui vont rendre visite aux personnes âgées en EHPAD ou auprès d'enfants en situation de handicap. On est là face à des établissements qui, sur des projets où on intervient quand même plusieurs fois dans une année, puisque c'est vraiment un programme où on va sur du long terme. Donc elles font le choix de ne pas avoir assez de budget pour payer complètement notre travail. Donc la compagnie pourvoit, doit trouver des financements pour rémunérer ces artistes qui interviennent, car ce sont des clowns professionnels qui interviennent. Donc du coup, sans avoir beaucoup de subventions, on se dit mais comment fait-on pour inventer de l'argent? Moi j'ai imaginé me mettre au service de ma compagnie en proposant pas mal d'ateliers en fait chez les scolaires ou d'autres structures. Je propose des stages de clown. Enfin, je donne de mon temps, en fait, pour que des personnes me donnent de l'argent qui me permet ensuite de réinvestir dans ces interventions, parce que voilà, ça me tient à cœur de pouvoir les réaliser. Donc ça, c'est un petit subterfuge pour essayer d'avoir des fonds, mais ça demande de travailler deux fois plus de temps. Et après, il y a des appels à projets aussi, hein, comme ce sont des choses un petit peu spécifiques. Je vais trouver du mécénat. Donc là, on a du mécénat de la Banque Populaire, la BPGO, la Fondation BPGO. Parce que voilà, on vient appuyer sur la corde sensible et donc on arrive à avoir du mécénat. Mais ça veut dire qu'il faut rentrer dans des cases. On se retrouve à devoir aller chercher l'appel à projet dans lequel on va pouvoir rentrer. Donc des fois, on tord un peu pour essayer de rentrer et obtenir des fonds. Et puis des fois, on se dit, bon, on est au bon endroit. Mais voilà, on se retrouve déjà à être dans ce système d'aller chercher de l'argent sur des fondations, donc des fonds privés.
Alors si aujourd'hui la subvention publique ne semble plus être à l'ordre du jour, si elle baisse dans toutes les régions, dans la plupart des régions et des départements, Est-ce que ça veut dire qu'il faut continuer à défendre ce modèle ou bien est-ce qu'il faut trouver des alternatives? Par exemple, le modèle que nous décrit Guylaine Loiseau, est-ce que c'est des choses qui sont applicables, envisageables sur des structures de la taille du plongeoir ou même de la MJC où on serait? Steve Belliard ou Richard Fournier, je vous donnerai la parole.
Moi, je veux juste rebondir peut-être juste là pour les auditeurs et auditrices sur un exemple très précis. On a eu un échange croisé avec Alexandre Thébault, donc conseiller à la région Pays de la Loire, sur notamment le financement et notamment son vœu d'aller refinancer la culture avec notamment des moyens privés. Juste pour donner un exemple, c'était dans le cadre d'une émission Public Sénat où on a pu avoir cette interview croisée. Et donc, M. Thébault nous conseillait de développer du merchandising, de la vente d'objets, de la vente de goodies, vous appelez ça comme vous voulez, en tout cas en termes d'anglicisme. En tout cas, c'est des souvenirs d'un établissement.
L'idée, c'est que la structure culturelle se transforme en entreprise. En
fait. Oui, voilà, qu'on puisse s'autofinancer. Donc, parmi ces pistes-là, on avait évidemment donc des choses à proposer par M. Thébault, donc de la vente d'éco-cups, ces gobelets en plastique, de la vente de vêtements également, etc. Donc juste pour vous donner un petit exemple, pour le plongeoir, pour combler 100 000 euros de perte de subvention directe en vendant des sweatshirts à 25 euros et en faisant une marge sur chaque sweatshirt de 5 euros, il nous faudrait donc vendre énormément de t-shirts, 20 000 fois 5 euros, et donc transformer le plongeoir en établissement public subventionné par le ministère de la Culture, la ville du Mans et le conseil départemental, en une industrie de textile, ce qui est a priori pas notre enjeu et pas notre projet et pas la chose pour laquelle je suis rémunéré pour soutenir la filière artistique.
Tout est affaire de choix, on pourrait dire, Richard Fournier.
C'est un petit exemple comme ça qui nous permet à tous et à toutes de faire des mathématiques et de voir en tout cas ce que ça peut raconter. Je voulais juste en tout cas donner cette petite anecdote.
Steve Bayard, je vous laisse reprendre la parole.
Ben, j'ai pas d'exemple précis, mais ça correspond complètement à l'état d'esprit que je voulais apporter. C'est-à-dire que effectivement. Les subventions publiques, on sait très bien qu'on est dans une période de crise budgétaire, d'interrogation des élus locaux hein, aussi. Enfin, on peut le comprendre. Après, il y a des choix qui sont faits. Et le choix qu'on voit là, qu'a pris la région, c'est de pousser toutes les associations dans les bras du secteur privé. Et j'allais dire, c'est pas notre cœur de métier. On n'a pas été forcément formés pour ça. Et même philosophiquement, enfin, ça pose beaucoup, beaucoup de. Pour moi, ça me gênerait justement de vendre des t-shirts ou des pour équilibrer un budget qui pour nous est pas forcément notre état d'esprit premier. On est là, on n'est pas là pour ça en fait. On est là aussi pour défendre une vision. Bah de la vie de la société, de la vie ensemble, des valeurs qu'on défend, de l'éducation populaire, c'est des choses comme ça. Clairement, c'est pas notre cœur de métier. Nous, la région, comme certains, on a été beaucoup moins impactés que certains lieux. En même temps, on a souhaité aussi être présent pour défendre cette idée commune de, alors tout ce qui s'est passé contre la culture, pas que la culture. L'idée du collectif qui s'appelait Convergence, c'est de dire qu'il n'y a pas eu que la culture de toucher également. Il y a eu le secteur associatif, prévention. Toutes les préventions dans les lycées, notamment avec des associations qui intervenaient régulièrement, ne pourront plus le faire. Ça, c'est très grave, puisque ça veut dire que là, il y aura des conséquences à moyen terme pour ces jeunes qui ne pourront plus avoir des temps de prévention sur tout un tas de sujets, notamment la santé, notamment des choses qui sont au cœur même de la vie entre nous. Et on peut pas défendre la jeunesse d'un côté et d'enlever des subventions à des associations dont le cœur de métier est de faire cette prévention. Ça, c'est aussi grave, je dirais, que le fait de décider que la culture est une variable d'ajustement dans des budgets. Parce que c'est des choix, après. Il y a des choix qui sont faits, il faut juste les assumer. Ce que je trouve intéressant aussi de voir, c'est que quand on lit la communication de certains élus de la région, on a l'impression que 70% des gens de la région sont d'accord avec ces choix-là. Quand on parle un petit peu avec les adhérents, avec les gens dans la rue, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que nous, l'éducation populaire, on l'en fait tous les jours, j'allais dire, puisqu'on explique ce qui se passe. Je le disais tout à l'heure, on va voir les adhérents, on va voir les habitants, on leur explique ce qui s'est passé, que ce n'est pas que le milieu de la culture qui a été touché. Et quand les gens comprennent, ils demandent tout de suite comment on peut agir, comment on peut faire quelque chose, comment on peut... Voilà, c'est ça qui est important aussi, c'est de se dire qu'en tant que citoyen, les gens sont, pas tous, mais parfois ont envie d'agir, de faire des choses. Et on peut pas se donner rendez-vous à certaines échéances électorales pour mettre un bulletin dans l'urne et faire changer des choses. Je pense que notre travail, enfin travail entre guillemets, notre mission qu'on a aussi, à la fois de proposer des spectacles, des concerts, des choses comme ça, c'est aussi d'avoir ces temps où les gens puissent se réapproprier la chose publique en disant voilà, certains élus font des choix, mais être bien éclairé sur les choix qui sont faits et quelles conséquences ça va avoir à moyen et long terme.
Alors c'est intéressant ce que vous dites là, parce que pourtant quand les annonces de la présidente de région sont tombées, a priori on n'a quand même pas vraiment senti un vent de panique de la part des gens sortis du cercle des acteurs et actrices du monde culturel. Mais c'est vous, alors je me demandais, auprès de vous, en tant que professionnel, qu'est-ce que vous avez constaté auprès du public? Est-ce qu'il y a une indifférence ou au contraire,
non,
comme le dit Steve Belliard?
Parfois les gens ne font pas le lien entre les choses, ils n'ont pas forcément conscience de ce qui se passe. Et d'où l'intérêt d'aller discuter. En fait, c'est ce qu'on s'était dit, nous, au moment où on s'était rassemblés, de prendre des temps pour aller discuter avec les gens dans la rue, leur expliquer ce qui se passe, leur expliquer aussi comment est financée la culture et comment il faut que ça continue d'être financé et qu'il ne faut pas que ça s'arrête. Et en fait, les gens n'ont pas du tout conscience, ne font pas le lien entre les choses. C'est pas de la méchanceté. Parfois, ils ne savent pas, en fait.
Et ce manque de conscience, comment est-ce que vous l'envisagez? Est-ce que pour vous, c'est un échec aussi, peut-être, de la part du monde de la culture?
Non, c'est pas un échec. Mmh. Je ne vais pas aller jusque-là. Ben je pense que c'est plus de la méconnaissance que de l'indifférence, en fait. Quand on participe à des réunions ou alors, par exemple, ce qui a été mis en place, des caravanes dans certains événements qui accueillaient déjà du public, l'idée, c'était de prendre des temps de discussion avec le public qui n'était pas venu pour ça, mais de parler un peu avec le public. Et quand on commence à leur expliquer la situation, les gens sont citoyens, les gens comprennent, les gens ont conscience de dire c'est important aussi ce qui peut se passer sur le milieu associatif, notamment aujourd'hui. Toutes les manifestations qui ont lieu le 11 octobre, ça ne tient plus, etc. C'est le milieu associatif. On peut dire qu'il n'y a pas autant de vues sur les réseaux, etc. Mais il s'est passé des choses énormes quand même sur des temps de parole, des temps de discussion. Les gens commencent à se rendre compte que les décisions qui sont prises sont des décisions, sont des choix politiques. Et c'est faire un choix politique, il n'y a rien de mal à ça. Sauf qu'il faut juste l'assumer après. Et dire ce qu'on a envie vraiment, et est-ce que les habitants ont envie de ça? Est-ce que les adhérents, même de nos structures, parce qu'on a des adhérents, tous les adhérents ne sont pas actifs dans l'association, et dès qu'on commence à aller les voir pour leur expliquer simplement ce qui peut se passer, on n'en fait pas forcément des militants, mais au moins des gens qui sont un peu plus éclairés. Et donc, ce n'est pas un échec, je pense qu'il y a toute une ouverture à aller expliquer.
Alors Richard Fournier, vous vouliez la parole tout à l'heure.
Je pense pas que ce soit un échec, c'est juste une conscientisation des choses. On va dire le service public, on peut le rapprocher du socio-culturel, du social, de la culture ou même de la santé. Au final, c'est un investissement à long terme. Un euro qui est investi maintenant, c'est un euro qu'on va retrouver dans 5, 10 ans et qui va être multiplié par 5, 10, 15. Laurent parlait de coefficients plus importants. Et au final, à l'instant... les dépenses culturelles, mais également les dépenses dans le service public, peuvent être considérées juste comme des dépenses sans recettes. Sauf qu'au final, ces dépenses-là permettent de ne pas en avoir des beaucoup plus importantes dans d'autres domaines dans plusieurs années. Et en fait, on fait œuvre juste de société en investissant dans ces secteurs-là. Quand on s'est mobilisé avec l'ensemble des collègues dans le cadre de Convergence, fin 24, début 25, grosso modo, on a fait tous ces moments aussi de conscientisation des choses, de mise en parole, d'aller interroger au final des personnes, notamment à travers des expos photos, des mots, etc. Et on a été surpris quand même de voir à quel point non pas les publics, mais les habitants de nos territoires étaient inquiets, investis aussi dans ces choses-là, et à quel point au final nos différents secteurs étaient aussi importants dans leur quotidien. Parce que c'est aussi important dans un quotidien de citoyen ou de citoyenne d'avoir accès au divertissement, d'avoir accès au social, d'avoir accès aux soins. Et toutes ces choses-là qui sont parfois pour nous logiques, normales, au final, non, ce sont des investissements nécessaires de la part de la puissance publique.
Mais alors, plusieurs collectifs ont été montés depuis l'annonce des coupes budgétaires. On a commencé à en parler, le collectif Convergence 72, ou donc l'association de préfiguration des compagnies professionnelles du spectacle vivant en Sarthe. C'est quoi l'objectif de ces collectifs, en fait, l'objectif de ces rassemblements entre plusieurs structures ou compagnies?
C'est deux choses différentes. Moi, je veux bien redire un petit peu pour l'assaut de préfiguration. Donc, l'idée, c'est d'aller monter une fédération des compagnies du spectacle vivant, parce qu'on voit bien qu'il y a des mutations. Il va falloir s'adapter à un moment donné, puisqu'il y a des choix politiques qui se font et qu'on les subit, de fait. Donc, on sait que là, les compagnies, si on reste chacune de notre côté à essayer de se débattouiller comme on peut, c'est très, très compliqué. Là, à la dernière AG, On a fait une petite prise de température, comment ça va pour toi? Donc il faut savoir qu'au-delà des coupes budgétaires sur les subventions, les compagnies, enfin les artistes ont aussi vécu la problématique du pass culture, qui permettait à des artistes d'intervenir soit par des spectacles ou soit par des ateliers dans le secondaire, donc en collège et lycée. Que ce pass culture, tout d'un coup il n'y avait plus d'argent, on arrête tout, donc il y a des projets qu'on peut plus faire. Voilà, les fonds étaient gelés, que les informations, elles filtrent, elles sont un coup, on dit ça va reprendre, après on ne sait pas pour combien et combien d'argent. Donc ça a mis quand même des compagnies qui avaient un petit peu, qui s'étaient dit, bon, on va aller à cet endroit-là, parce que là il y a de l'argent, là il y a du travail, on va mener des projets auprès des publics collégiens et lycéens. Ça les met dans le rouge, parce que s'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas les projets. S'il n'y a pas les projets, il n'y a pas de travail. Donc on arrive à un moment donné où on a des compagnies où on ne sait pas si elles vont pouvoir continuer de survivre. Donc se fédérer, il y a ce côté, on veut rester ensemble et trouver des solutions et réfléchir à ce que la fédération pourra apporter de meilleur pour que tous les artistes puissent continuer leur travail. Mais ça nécessite un énorme travail de réflexion qu'on est en train de mener actuellement.
Et alors concernant le collectif Convergence 72, c'est vraiment un collectif qui trouve son ancrage dans ses coupes budgétaires et dans ses réactions à ses coupes.
Oui, enfin effectivement, ce collectif s'est monté fin décembre, janvier, quand tout le monde a pris les coupes budgétaires. L'idée, c'était dans la même idée de se fédérer, enfin de se serrer les coudes et de faire un appel à tous ceux qui souhaitaient se regrouper pour réfléchir à des modes d'action aussi, de mobilisation, mais aussi d'explication. Puisque c'est tombé, au-delà du choix qui a été fait, c'est la méthode. Enfin, c'est d'une brutalité sans nom. Je le dis sous couvert de Richard, qui l'a vécu quasiment en direct. Mais par texto, apprendre qu'on a moins 150, moins 100 000 euros, c'était d'une brutalité sans nom. Et les annonces arrivaient tous les jours. Donc le fait de s'être retrouvés tous ensemble à ce moment-là pour faire des groupes de réflexion, des groupes d'action sur des thématiques différentes, d'imaginer aussi comment aller vers le public, vers les habitants, pour leur expliquer ce qui se passait et ce qu'on voulait aussi. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas simplement se battre contre une décision politique qui, au final, est passée, finalement, voilà. Mais c'est de se dire, qu'est-ce qu'on veut imaginer, nous? Qu'est-ce qu'on imagine? C'est quoi notre vie en société? La place de la culture dans vos territoires, dans les territoires, dans tous les territoires, urbains, ruraux, etc. C'était un peu l'idée de dire, on est là aussi pour défendre une vision de la société générale, mais de la culture, mais dans une société plus large. Et est arrivée l'idée des caravanes, justement, où plusieurs acteurs se regroupaient, associatifs, culturels, etc., pour aller dans des lieux, pour aller discuter avec des élus, des habitants, des responsables associatifs, dans tous les coins de la Sarthe où les gens voulaient nous accueillir. Donc il y en a eu une dizaine, je crois, de mémoire, je crois, de fait, à peu près. Et à chaque fois, ça a été un bon moment de discussion, de partage, de j'allais dire éducation populaire encore, mais c'est, voilà, on discutait et on enlevait toutes les barrières qu'on peut se mettre, de se dire, on se bat pas que pour la culture, pour l'ensemble de la vie dans ces lieux de vie que sont les villes, les villages, etc. Et ça, c'était important, c'est ça a permis ça.
Et d'ailleurs, toujours dans cette démarche d'intégrer les habitants, Steve Béliard, les MJC travaillent à élaborer un label de scène culturelle de proximité. La structure que vous dirigez, c'est d'ailleurs renommée Maison des Jeunes et des Cultures. Cela dans un objectif de faire de la culture, non pas pour, mais avec les habitants. Concrètement, comment est-ce réalisable, cette implication des habitants dans la culture? Et qu'est-ce que ça peut apporter, en fait?
Wow. effectivement, la scène culturelle de proximité, c'est quelque chose qui avait été pensé, réfléchi il y a 20 ans à la MJC Ronceret, qui a fait son petit chemin, etc. Et aujourd'hui, il y a une charte nationale qui a été rédigée par le ministère de la Culture vers les fédérations d'éducation populaire au niveau national, puis déclinée au niveau régional. L'idée, c'est d'avoir tous les acteurs d'éducation populaire autour de la table pour dire comment on imagine la culture dans nos territoires. Ça, c'est une première. Ça n'avait encore jamais été fait dans des structures qui ne sont pas labellisées. Maintenant, le challenge, c'est de pouvoir se mettre autour d'une table et de trouver des moyens communs pour essayer de le traduire en action au plus proche de nos territoires. Donc, que ce soit les centres sociaux, les MJC, enfin, il y a plein de structures d'éducation populaire qui sont autour de cette question-là. C'est un beau projet. Après, il reste encore à le concrétiser. Au jour le jour, nos structures, hein, même si on n'est pas MJC ou centre social, on est tous dans l'éducation populaire, culture du cœur aussi. Enfin, l'idée, c'est de mettre au centre les habitants. Comment on leur laisse une place aussi, pas simplement pour venir voir des spectacles, mais peut-être pour assister à des représentations et de se dire, moi aussi, j'aurais envie de, de proposer des spectacles ou des choses comme ça. Et comment on leur laisse la place. Ça, ça fait complètement partie de, du projet de notre MJC, mais qui est partagé dans plein de MJC partout en France, hein, c'est l'idée. Et le fait de s'appeler Maison des Jeunes et des Cultures, c'est l'idée qu'il n'y ait pas une seule culture, mais il y a des cultures. C'est-à-dire qu'en plus, nous sommes situés au sud du Mans, dans les quartiers sud de Ronces-Réglonnières. On a une pléthore de cultures différentes qui viennent d'ici ou d'ailleurs ou de plus loin. Et c'est la richesse aussi de ce quartier, de l'ouvrir aux cultures venues d'ailleurs et de voir comment les gens, même parfois ça passe par simplement de la cuisine, viennent apprendre un plat et se retrouvent dans la commission au repas. Et en fait, elles ne sont plus reparties du tout. Et ça, voilà, c'est enlever les barrières qu'on peut se mettre aussi de légitimité de venir voir des spectacles, de venir voir des expositions dans un lieu qui est pourtant au plein cœur du quartier. Et ce n'est pas toujours simple. Donc, on essaie de travailler avec nos partenaires. On a vu ta collègue du plongeoir qui est venue nous voir. On va faire des passerelles avec eux, avec les
la collègue de Laurent Manoury, Quinconces.
On essaie de travailler tout ça. Voilà, on essaie de travailler
Richard
tout
Fournier.
Ça.
Ah, de Richard voilà. Fournier, pardon.
Non, voilà. Enfin, oui, on travaille avec énormément de partenaires aussi pour que la culture soit non pas un idéal, mais c'est au plus près une scène culturelle de proximité avec un soutien aussi aux compagnies locales pour donner des temps de résidence aussi quand on le peut. Voilà, enfin, cette idée-là, elle est globale.
Alors Laurent Manoury, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, peut-être qu'il y a une notion qui est finalement assez peu connue dans notre formation citoyenne et civique, c'est l'article 27 de la Déclaration des droits de l'homme et qui fonde la notion de droit culturel. Parce que comme Steve le disait, nous à Culture du Cœur, on a un S à culture aussi. Donc c'est une vision de la culture qui repose sur la culture de chacun et sur l'accès possible de chacun à la culture et de participer à la culture de l'autre. Et ça, cette vision-là, c'est radicalement celle qui s'oppose aujourd'hui à une vision politique qui veut restreindre une culture très descendante, centralisée, historique, des fois dogmatique. Et je pense que ça, c'est pas neutre dans l'époque et dans les décisions qui ont lieu dans la région. On parlait de notre élu à la culture, qui est quelqu'un qui était très engagé aux côtés d'un milliardaire qui défiscalise, dont tout le monde entend parler en ce moment, ce terrain, qui finance ses projets. Alors lui, il a une association financée par un milliardaire, mais qu'il fait de manière idéologique. Ils organisent des événements, les Nuits du Bien Commun, où des notateurs viennent dire, bah voilà, moi je finance pour qu'on aille apprendre Jeanne d'Arc dans les écoles privées. Et ils font ils vivent de manière, en ayant une offre gratuite, mais on n'est pas dans l'évangélisation, mais presque. Ou en tout cas, dans une manière de raconter une culture ou une histoire. Et ça, je pense que c'est radicalement différent comme projet de société. Nous, ce qu'on défend, c'est le fait de faire avec les cultures de chacun et que chacun puisse, au travers de ça aussi, participer à une approche citoyenne, démocratique. Ça fait partie de l'émancipation des individus. Un des points, pour revenir à la réaction des associations, des acteurs culturels et tout le monde, Richard l'a précisé, c'était extrêmement brutal. Et aujourd'hui encore, toutes les têtes de réseaux associatifs ne connaissent pas. Il y a eu des enquêtes menées, on a fait des simulations, des extrapolations. Sur l'enquête entre les pôles culturels, on estimait, je ne sais plus à combien de milliers de pertes d'emplois qui allaient être directement générées. L'enquête de l'UDES parlait de 12 000 emplois. L'UDES, c'est l'Union des entreprises de l'économie sociale et solidaire à l'échelle de la région. Mais là, on est vraiment sur quelque chose qui va être dramatique, tout secteur confondu. Et bon, on parle de la région, c'est un point, mais il faut se dire que les coupes, elles ne sont pas qu'à l'échelle régionale. Là, on a le projet de loi finances et cette idéologie.
On allait y venir justement, parle, au chef de loi de finances.
Malheureusement, elle est ancrée. Notre présidente de région, dans une interview juste avant l'annonce des coupes budgétaires dans le journal du Sénat, je crois, disait que c'était un super laboratoire d'expérimentation pour décliner ensuite quelque chose. Et on le voit là, dans les annonces aujourd'hui, on parle de moins 54%, alors pour les radios associatives, mais aussi de manière globale pour l'économie sociale et solidaire. Donc tout ce qui crée de la valeur en essayant d'y mettre du sens, de faire société, d'être respectueux par exemple de l'environnement ou d'ensemble de problématiques sociales, aujourd'hui est attaqué. C'est la jeunesse, l'éducation populaire, il y a moins 145 millions d'euros sur le sport. Là, qui sont décidés dans le nouveau projet de loi. Donc, à chaque endroit, là, on a déjà eu, là, on parlait du pass culture, mais le passeport, maintenant, il va être payant pour les enfants de moins de 13 ans. Donc, comment ça se passe quand on est déjà sous le seuil de pauvreté dans un quartier prioritaire? Et tout ça, on oublie aussi une donnée fondamentale, c'est le coût induit que ça génère derrière. Aujourd'hui, on a déjà des événements sportifs, faute d'encadrants, etc., où il y a des incivilités, où les jeunes ne vont pas bien. Quelle violence on veut produire?
et quelle fragilité ont aussi la jeunesse. On le voit à tous les niveaux de la société. On parle de la santé mentale des jeunes. Il y a des enquêtes alarmantes qui sortent toutes les semaines. Il faut se préoccuper de ça, parce que ça, c'est des vrais coûts pour la société. Et l'impact, et reconstruire ce qui est en train d'être détruit, là, ça va coûter mais beaucoup plus cher. Sans alors, parler des traitements derrière.
On va terminer sur le projet de loi de finances. Juste avant, Richard Fournier, vous voulez prendre la parole ?
Non, c'était juste, oui, enfin, pardon, c'était juste pour insister aussi sur cette mission de service public qu'on partage. Au final, qu'on soit établissement culturel, établissement social, artiste, lieu culturel, subventionné ou non, peu importe. Au final, on fait tous partie d'un même écosystème. À partir du moment où cet écosystème est attaqué par un haut ou par un bas, en fait, c'est l'ensemble de l'écosystème qui est déstabilisé. Là, on s'aperçoit qu'avec ces différentes coupes successives, avec également la situation qu'on traverse maintenant, l'ensemble des strates de l'écosystème socio-culturel, on pourrait dire, est en situation de grande fragilité. Cette situation de grande fragilité, là, pour l'instant, elle est présente, mais elle va encore se dégrader. Toutes les structures sont actuellement en train d'écrire leur budget pour l'année 26. Là, il y a des choix qui vont commencer à s'opérer grandement. Et donc, cette notion-là de service public qui est attaquée, c'est quand même quelque chose d'assez important, je trouve, à communiquer, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a des choix qui vont devoir se faire dans les prochaines années, des choix politiques. Et là, on nous présente notamment un projet de société où, au final, la culture n'est plus un bien commun, en tout cas dans la région Pays de la Loire. La culture est soumise aux lois du marché. Qui dit une culture soumise aux lois du marché dit une culture qui va être payant au comptant. Qui demain va accepter d'aller voir un spectacle à 60 euros ? Qui demain va avoir la possibilité d'aller voir un spectacle à 60 euros ? Et du coup, qu'est-ce qu'on veut faire comme société de demain ?
Et alors, pour terminer donc cette question sur le budget 2026 présenté par le Premier ministre Sébastien Lecornu, je n'ai pas souhaité y accorder davantage de temps dans l'émission parce que c'est un projet qui est encore loin d'être voté. C'est un projet néanmoins qui prévoit d'attribuer un budget de 12,3 millions d'euros à l'économie sociale et solidaire, soit une réduction de 54% par rapport à l'année dernière. De même, une baisse de 26% des crédits concernant la jeunesse et la vie associative. Cependant, le gouvernement prévoit également de doubler le plafond de versement de dons à une association. Alors là, on est plutôt sur des mesures qui vont toucher les structures culturelles associatives, donc pas forcément le plongeoir. Mais du coup, dans cette logique, moins de subventions, plus de dons, est-ce que vous êtes convaincu ? Un grand silence s'abat sur le studio.
Non, mais dans tous les cas, c'est toujours les dans tous les cas, c'est toujours les habitants et les habitantes qui vont payer.
Hein. Oui.
Dans tous les cas. Et jusque là, le choix en fait, il va être très particulier. C'est-à-dire que l'État en fait se désengage d'une culture ouverte à toutes et à tous et se désengage d'être garant d'une culture en tout cas accessible ou en tout cas d'un système socio-économique pour socio-culturel pardon qui puisse être accessible à toutes et à tous. Donc ça veut dire quoi au final? Oui, encourager les dons, d'accord, mais encourager les dons de qui, pour qui? Et moi je trouve qu'il y a un désengagement de l'État et donc qui doit être garant justement d'avoir un bien commun. Enfin,
on revient sur Pierre-Edouard Sterrin.
Oui, lui ou d'autres, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose quand même. C'est une mission régalienne, hein. Tout cet écosystème. Et du coup, là, on est en train de sabrer, de se désengager, de faire des coupes dans cet idéal, dans ce pacte sociétal que l'on partage et que l'on doit partager.
Quelqu'un veut ajouter quelque chose sur ce point, Guylaine Loiseau ?
En tout cas, sur la question des dons. Enfin, les dons, ils ne tombent pas tout seuls hein, non plus. Il faut aller les chercher, il faut faire de la communication. C'est du temps que nous, dans une petite structure associative, bah, on le fait bénévolement.
Ça arrive des dons de 2000 euros ?
Comment ?
Des dons de 2000 euros, c'est le nouveau plafond, ça arrive des dons de 2000 euros, 2000 euros
plutôt. À part une fondation, non, des privés ne donnent jamais autant. Et puis, en plus, pour bénéficier de ce genre de... Il faut payer des impôts, donc les... Parce que c'est juste déductible, en fait. Hein. C'est pas un crédit d'impôt.
C'est des dons déductibles à 75%.
Voilà, mais c'est déductible. Donc, il faut être déjà à payer des impôts. Enfin, voilà. Enfin, bon, bref, c'est toute une démarche d'aller toquer à la porte des gens. Enfin, moi, personnellement, j'ai horreur de dire « Allez, vas-y, donne-moi des sous. Tu vas voir, 1 + 1 + 1, ça va faire quelques euros. Enfin, » au bout d'un moment, c'est épuisant parce que c'est pas notre travail. Et on aimerait bien pouvoir faire juste notre métier en tant qu'artiste à un moment donné qui est d'aller faire des spectacles, des créations.
Donc, effectivement, pardon, c'est on marche sur la tête, c'est-à-dire qu'on est, on se désengage d'un côté et on fait porter sur tout un chacun le fait de pouvoir faire un don. Mais en fait, s'il y a une telle casse sociale qu'à mon avis, qui aura les moyens de donner à l'association, etc. Enfin,
si
c'est défiscalisable, c'est-à-dire c'est l'État qui va rembourser à la personne une partie. Donc en fait, ça, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Enfin, c'est vraiment moi c'est dangereux même, j'allais dire. Enfin, c'est-à-dire c'est une façon de voir les choses qui est complètement. Enfin voilà, j'allais dire une phrase, le cornu peut aller se rhabiller. Non, c'est peut-être méchant ce que je dis, mais voilà, c'est penser à l'envers. C'est penser à l'envers alors que des solutions existaient. Et pourquoi revenir dessus, puisque on sait très bien que nos associations, quelles qu'elles soient, on est toujours dans une fragilité. On est dans une certaine fragilité quand même. Et là, se faire porter sur les habitants la façon de faire des dons, enfin, j'ai l'impression d'être obligé d'aller faire la quête. Et c'est, là encore, je le disais, c'est énormément de temps, énormément d'énergie à y mettre pour un résultat qui est un peu aléatoire.
Qui voulait reprendre la parole sur Gadine Loiseau?
Et puis, de toute façon, les gens ne vont pas pouvoir donner à tout le monde.
Bah, c'est ça.
Donc, des choix. Oui. On donne à qui? C'est qui la priorité?
Oui. Laurent Manouri, allez-y.
Oui, juste un petit point, parce que pour une association comme la nôtre, à Culture du Cœur, par exemple, on a à peu près par an entre 25 et 30 demandes différentes de financement. Des demandes, quand elles sont obtenues, sur lesquelles on fait des rapports, des bilans quantitatifs, qualitatifs. Si on n'a pas dépensé tous les sous, il faut qu'on les rende. Il y a tout un ensemble de critères et de procédures, alors qu'ils ne sont jamais sur les mêmes plateformes. On nous demande toujours des cofinancements, alors il faut que tout puisse s'emboîter pour mettre les actions. Et ça, tout le monde le vit autour de la table. Alors, le mécénat, en plus, pourquoi pas? Là, je dirais, on le fait aussi, mais très souvent, un mécène ou une fondation va dire « moi, je peux vous soutenir un an, mais pas l'année prochaine ». Donc comment on pérennise des emplois, ne serait-ce que les emplois pour répondre les dossiers et les biens? C'est quelque chose qui n'a aucune pérennité par rapport au public, par rapport aux structures et par rapport à une visibilité d'une politique à long terme, si on veut s'en donner les moyens. Parce que pendant ce temps-là, les jeunes, ils sont toujours dans le quartier. Ils peuvent voir des tas d'associations qui naissent, disparaissent tous les ans et qui déposent le bilan. Ça ne va pas les arranger tellement. Donc le système des entreprises n'est pas prêt à substituer à l'État. Il y a une aide et qui est précieuse. Et heureusement qu'il y a cette politique d'entreprise, mais c'est... Allez, 10-20% du budget d'une association, c'est déjà énorme. Ça peut peut-être sauver parfois un emploi, mais ça n'ira jamais au-delà.
Et Charles Fournier, pour terminer.
Oui, pour un exemple, hein, le Plongeoir, c'est un budget de 2,9 millions d'euros. C'est 50 000 euros de dons et de mécénat, notamment des mécénats et du sponsoring. Si on développait du mécénat et du sponsoring, aller chercher par exemple 100 000 euros sur une année, ça veut dire qu'il va falloir que nous, on embauche un salarié en direct. Quelqu'un qui va coûter au Plongeoir entre 35 et 40 000 euros à l'année, et que dans tous les cas, il ne va pas être en mesure de ramener des mécènes ou des partenaires avant un an. Donc ça nous revient à nous demander, dans une situation où on vient de perdre par exemple 100 000 euros, de réinvestir 40 000 euros supplémentaires pour espérer récupérer 100 000 euros à 2 ans. Donc on va avoir dépensé 80 000 euros pour récupérer 50 000 euros. Ça vous donne en tout cas la cohérence de cette démarche. Donc oui, trouver du mécénat, oui, trouver du don, oui, on n'est pas contre avoir des financements complémentaires. Juste à partir d'un moment, il faut que ce soit viable.
Alors, Laurent Manouri, un mot, vraiment un mot.
Oui, juste pour dire que le don et le mécénat, tout le monde le fait déjà. C'est l'impôt hein, et ça s'appelle la TVA. Tout le monde participe à cet argent qui devrait participer justement à l'ensemble des politiques publiques qu'on mène.
Et j'en profite donc pour ajouter que le projet de budget prévoit de réduire de 44% le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Selon le syndicat national des radios libres, la moitié des radios associatives et 80% de leurs emplois sont menacés. Nous aurons l'occasion d'en reparler prochainement sur notre antenne. C'est la fin de ce débat sur le modèle culturel associatif et non associatif, d'ailleurs français. Je vous remercie, Laurent Marnoury, coordinateur régional des cultures du cœur et conseiller au sein du Conseil économique, social et environnemental des Pays de la Loire, Steve Béliard, directeur de la MJC Ronceret, Richard Fournier, directeur du Plongeoir, pôle national du Cirque du Mans, Guylaine Loiseau, directrice de la Compagnie des Ailes du Rire, coprésidente de l'Association de préfiguration des compagnies professionnelles du spectacle vivant en Sarthe, ainsi que Sandrine Rouault, directrice du PAF Théâtre et membre du conseil d'administration de cette même association de préfiguration. Merci également à vous qui nous écoutez d'avoir suivi ce programme. Vous pouvez le retrouver en podcast sur radioalpa.com dans les infos de la rédaction. Et on se retrouve lundi 20 octobre pour la reprise de C'est d'actu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite sur Radio Alpa, bien évidemment. Merci à tous.